nous allons ouvrir nos Bibles. Pendant que nous sommes toujours debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode. Exode chapitre 33. Nous allons lire à partir du 13e verset jusqu'au 10e, au 19e. Exode 33. Le verset 13 jusqu'à 19. La Bible dit ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous faites point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Du 7, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te donne Et je te connais comme ton nom. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Enfin, 19. L'Éternel répondit, je passerai devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel et je fais grâce à qui je fais et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, encore une fois de plus. Et nous disons merci à tous les visiteurs qui ont choisi de célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Nous disons bienvenue. Et là où vous êtes dans la maison des enfants de Dieu, la maison de notre Père, sentez-vous hyper à l'aise et épanoui dans la présence de Dieu. Je bénis encore une fois de plus le nom de l'Éternel et aussi toute l'Église ainsi que les corps pastoraux pour cette opportunité que nous avons reçue encore de vous partager la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler sur ce thème « Quand Dieu marche avec nous ». Quand Dieu marche avec nous. Quand Dieu marche avec nous. La semaine qui vient de se passer, ou soit la semaine antérieure, nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur l'autodiscipline. Et nous avons dit que dans la marche chrétienne, nous avons besoin de l'autodiscipline. Parce qu'il y a certains résultats que nous allons recevoir dans notre vie qui émanent de l'autodiscipline. Parce que dans la marche de la vie chrétienne, nous aurons à faire des choix. Et Dieu présentera devant nous des choix à faire. C'est vrai qu'il nous donnera toujours les options à suivre, mais c'est à nous de choisir. Mais je ne voulais pas que l'Église puisse rester seulement sous cette note, parce que nous risquerons de penser que la vie chrétienne dépend à totalité de notre bon vouloir. C'est que si je veux, je le peux. Non. Il y a certaines réalités qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Du reste, même Paul lui-même, qui est en train de dire que je traite durement mon corps, vous allez voir que dans Philippiens, il conclut en disant ceci, « J'appuie tout par celui qui me fortifie. » Comme pour dire que toutes ces choses, si j'étais à mesure de les réaliser, si j'étais capable de m'autodiscipliner, c'est parce qu'il y avait une main derrière tout ça. Et Moïse avait compris. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, parlant un tout petit peu d'exode, le mot exode, qui vient du grec exodus, veut tout simplement dire sortie ou départ. Et donc lorsque nous lisons Exode, nous voyons un peuple qui est dans la marche. Et les livres d'Exode préfigurent la vie chrétienne. Rappelez-vous que toute cette période, nous sommes en train de parler de la victoire dans la marche chrétienne. Depuis le jour où on a donné notre vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une marche. Nous allons quelque part. Et les évangiles nous disent que nous sommes le pèlerin. C'est-à-dire là où nous sommes, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore un parcours à faire. Il y a encore un parcours à faire. Et le livre d'Exode, c'est une image concrète de ce que Dieu veut réellement que toi et moi, nous puissions être dans notre marche chrétienne. Et vous allez voir que dans cette marche avec Dieu, il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs éléments qui sont entrés en jeu. Et à un certain moment, Dieu s'est retrouvé devant un peuple qui, c'est vrai, portait le nom de Dieu. C'est vrai, était le choix de Dieu. Mais de temps en temps, les enfants d'Israël se compromettaient. Et ils cherchaient à quitter la voie. Et les livres, plutôt les chapitres que nous venons de lire, à partir du chapitre 32 et chapitre 33, nous voyons comment est-ce que Dieu, il est un tout petit peu irrité et il propose à Moïse des solutions. Et pour moi, lorsque je regarde ces deux solutions qu'il propose à Moïse, j'ai dit souvent que c'est aussi un test de leadership de Moïse. Pour savoir quelle est la compréhension de la mission que Dieu avait donnée à Moïse. Comment est-ce que Moïse lui-même, il avait mordu sur cette... Sur ce que le Seigneur lui a réellement demandé de faire. La première proposition que Dieu lui donne dans le chapitre 32, il dit: Moïse, parce que le peuple s'est compromis, et le peuple, c'est un peuple au cou roide, ce que je vais faire, je vais les détruire tous et recommencer une autre génération avec toi. Vous connaissez bien la réponse de Moïse. Moïse a dit: si tu détruis ce peuple, efface aussi mon nom de ton livre. En tant que leader, il devrait prendre la position des gens qu'il est en train de conduire. La deuxième proposition qui fera l'objet de notre message de ce matin, Dieu lui dit: écoute Moïse, alors je veux faire une autre chose. Parce que ce peuple me nerve, je préfère vous donner l'ange. Vous mettrez sous la responsabilité de l'ange. Et comme ça, ça va m'épargner de marcher avec vous. Parce que si je suis là, je risquerai de vous détruire. Et Moïse fait ses déclarations en disant: Seigneur, si toi-même tu n'es pas avec nous, ne nous faites pas partir d'ici. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous faites pas partir d'ici. Mais Moïse, tu avais déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà au départ, ça montre que Dieu t'avait choisi. Mais Moïse, tu as déjà fait beaucoup de prodiges avec Dieu. D'ailleurs, là où vous êtes déjà près de l'objectif. Mais Moïse, dans sa vie, il veut encore se rendre compte que Dieu est avec lui. Et ce matin, bien-aimé, si je peux dire, l'objectif de ce message, c'est de pousser quelqu'un à se poser la question: est-ce que Dieu est encore avec moi dans cette marche? Parce qu'à un certain moment de la vie, lorsqu'on a déjà maîtrisé, on tombe dans les coups de l'expertise. On tombe dans le charme de connaître. On tombe dans le charme de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la situation. Dans la vie spirituelle, personne ne maîtrise la situation. Dans la marche chrétienne, personne ne maîtrise la situation. On a toujours besoin de celui qui a commencé cette marche. Continue avec nous. Alors, il y a trois choses que je voulais partager avec nous qui arrivent lorsque Dieu est avec nous dans la marche. La première des choses que nous voyons lorsque Dieu est avec nous dans la marche chrétienne, c'est le maintien de la grâce. Le maintien de la grâce. Dieu nous maintient sous la grâce. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes, là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je viens de le dire ici, c'est que Moïse, son parcours commence par la grâce. Déjà, les jours de sa naissance, il est né dans la période où on exécute tous les enfants garçons. Mais lui, il a été préservé. Deuxième élément qui montre la grâce de Dieu sur Moïse. Sa grande sœur va les déposer dans la mer. Son idée c'était, je ne sais pas, il va aller se perdre quelque part ou mourir. Mais nous ne voulons pas voir cet enfant mourir sous nos yeux. Dieu l'amène petit à petit, pas dans n'importe quelle famille. Dans la famille de Pharaon lui-même. En d'autres termes, Moïse était le second héritier si Ramsès mourait avant lui. Troisième élément qui montre que Moïse était un gracieux de Dieu. Il est en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et Dieu le rencontre. Il dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les pleurs de, mes enfants, de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Et je suis descendu. Alors va. En autre terme, va à mon nom. Trois choses qui montrent que réellement Moïse, c'était un favori de Dieu. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui parle face à face. C'est vrai, il lui a dit, tu ne verras pas ma face. Mais la Bible nous dit, quand il entrait dans la tente d'assignation, il parlait avec Dieu comme un homme parlerait à son ami. Moïse, tu es déjà un gracieux de Dieu. Mais il dit à Dieu, Seigneur, je vais me rassurer que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Dieu lui dit, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. La marche chrétienne, c'est une marche de grâce. Si on peut résumer cette marche-là, c'est une marche de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle commence par la grâce et elle continue sous la grâce. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, elle dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. C'est par là que notre marche chrétienne a commencé. Il n'y a personne parmi nous qui dira, oui, parce que je fais ceci pour Dieu, alors je suis devenu chrétien. C'est pour cela que j'ai aimé les cantiques que les worshippers ont chanté avant que je ne prenne la parole. C'est qu'ils disent, je ne peux imaginer. C'est-à-dire, je ne me suis pas assis pour calculer les coûts. Je ne me suis pas assis pour savoir combien je dois payer pour devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas la grâce. C'est la grâce qui m'a rencontré. Et j'aime bien avec la grâce parce que la grâce nous a ciblés de n'importe où. Alléluia. Romains chapitre 5, versets 1 à 2, dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à une grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est-à-dire, nous continuons à vivre sous cette grâce-là. Voilà pourquoi il est premièrement important de savoir que Dieu est avec toi. Parce que lorsque Dieu est avec nous dans la marche, c'est lui qui maintient cette grâce-là. C'est lui qui garde cette grâce. J'ai remarqué dans la Bible plusieurs leaders qui ont fait des grands progrès avec le Seigneur. Ils n'ont pas bien fini. Ils ont fini par quitter la grâce. Vous voyez, quelqu'un comme Josaphat, on a beaucoup parlé de Josaphat ici. Un homme merveilleux. Il a un problème, il part chercher Dieu. Il a un problème, il décrète le jeûne. Mais lorsqu'il a remporté la victoire, il a eu le butin. La Bible nous dit, il est parti chercher le roi ailleurs et commencer à discuter sur les business, faisant des navires. Et la question que je poserais à Josaphat, si j'étais son conseil, j'allais dire, pourquoi tu n'as pas décrété le jeûne pour savoir qu'est-ce que tu vas faire après ici? Alléluia. C'est très dangereux. C'est très dangereux, bien aimé, que de commencer à dire ma vie chrétienne, c'est juste une vie d'autodiscipline. Non! L'autodiscipline a sa place, mais la grâce, c'est elle qui donne la force à l'autodiscipline. Parce que je puis tout par celui qui m'aide. C'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia. Autre chose que je voulais que nous puissions noter par rapport à la grâce, c'est que notre... La grâce, c'est elle qui nous distingue en fait. C'est pas la grâce que nous sommes distingués. Lorsque nous nous retrouvons parmi les autres, ce n'est pas à cause de notre connaissance, ce n'est pas à cause de nos avoirs que nous nous distinguons. C'est par la grâce. Vous vous rappelez, la fois passée, le dimanche passé, on a parlé aussi de Joseph. Seulement la grâce. Devant les gens qui avaient autant d'expérience. Les gens qui ont fait leur preuve à côté des pharaons. Un jeune homme de 30 ans qui arrive et qui a commencé d'abord par dire, écoutez, Pharaon, ton rêve là, c'est pas moi qui te dirai la suite. C'est Dieu qui te dira la signification de ton rêve. Dieu a des fois besoin que nous puissions être, comment je vais dire, nous puissions avoir cette humilité. Et aussi, il y a un terme là qu'on utilise. L'honnêteté scientifique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Si c'est l'honnêteté spirituelle ou scientifique, je ne sais pas. Je sais que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas moi. Bien que ça va passer par moi, ce n'est pas moi. Il y a un Dieu qui l'a fait. Alors je dois citer ce Dieu-là quand je suis en train de le faire. Je dois être à mesure de dire que ces choses que vous voyez ici, ce n'est pas moi. Comment je peux entrer dans la pensée des pharaons et savoir ce qui est dans la pensée des pharaons? Daniel chapitre 1 verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient la science, la sagesse, l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois. Ça, c'est les jeunes hébreux. 10 fois supérieurs à qui? Aux magiciens. Et je me dis, pourquoi est-ce que les occultistes nous intimident les gens à des fois, à des moments, pour dire que hey, ils sont, ce sont eux qui donnent l'intelligence, dont l'argent. J'ai toujours défié les étudiants en disant, écoutez, moi, le jour où je croirai que l'occultisme est dans l'intelligence, c'est le jour où on sortira quelqu'un de santé mentale, phase finale dans sa maladie mentale, et ils viennent chez les occultistes, ils font de lui un savant. Ce jour-là, moi, je vais croire. Ils ne le feront jamais. Ils iront dans les universités parce qu'ils savent qu'il y a des intelligents là-bas. Ils iront dans les hôpitaux parce qu'ils savent qu'il y a des intelligents là-bas. Ils vont utiliser ce que tu as déjà pour te dire que ce sont eux qui t'ont donné. Ils ne donnent pas l'intelligence. La Bible est claire. Devant les magiciens, 4 jeunes hébreux, ils se retrouvaient 10 fois plus supérieurs. La grâce. Toujours par rapport à la grâce pour ceux qui écrivent. La grâce déclenche l'exaucement. Ça, j'ai beaucoup aimé. La grâce déclenche l'exaucement. En fait, Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, ne nous laissez pas partir d'ici. Dans ma marche avec ce peuple, je ne veux pas quitter ces lieux sans toi. D'ailleurs, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi lorsque je verrai que ta grâce est avec moi. Et Dieu lui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. La grâce fait de nous les héritiers de Dieu. La grâce fait de nous les propriétaires du bien, des biens de Dieu. Et j'ai toujours eu ça à l'image. Lorsque je marche avec mon enfant, nous entrons dans un supermarché. Mon enfant ne me pose pas la question, papa, combien tu as? Je vois souvent mon garçon me dire, papa, s'il te plaît, permets que je prenne ça aussi. Papa, s'il te plaît. Et moi, dans mon cœur, je dis, est-ce que tu sais combien j'ai dans ma poche? Parce que lorsque je marche sous la grâce de mon Père, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a dans sa poche. Tout ce que moi je sais, c'est que j'ai un panier que je dois remplir. Et le Père dit, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, allons-y. Oh, j'aime une chose. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, lui n'est pas à court des ressources. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. Tout ce qu'il veut, il veut que nous puissions rester sous sa couverture des grâces. Il dit à Israël, Israël, une des choses qui m'inquiète avec vous, quand vous serez dans la terre promise, que vous ne puissiez pas dire, c'est à cause de ma force, c'est à cause de ceci que je me suis donné toutes ces choses. Voilà ce qui inquiète Dieu lorsque tu as marché sous sa grâce. Il dit, est-ce que tu vas garder cette grâce? Alléluia. Marche avec nous. Deuxième chose, lorsque nous avons Dieu dans notre compagnie, sa présence nous aide à garder notre âme. Vous savez, bien aimé, l'âme, c'est la chose la plus importante dans le domaine spirituel. Parce que l'âme, c'est elle qui décide, l'âme, c'est elle, le centre des émotions, le centre de tout. C'est pour cela que je dis, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Dieu va punir sévèrement l'âme parce qu'il lui a donné un certain pouvoir. Et dans le Proverbe, chapitre 16, verset 17, il dit ceci, « Le chemin de l'homme droit, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Lorsque tu n'arrives plus à veiller sur ta voie, c'est-à-dire que ton âme n'est plus sous contrôle. C'est-à-dire que tu ne gardes plus ton âme. Tu as exposé ton âme. Alors la présence de Dieu nous aide à garder cette âme. Nous aide à garder cette âme. Et Philippiens 4 et 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Parce que mon âme, ce qui me pousse souvent à commettre des choses qui m'éloignent de Dieu, c'est lorsque mon âme commence à tomber dans l'inquiétude. Lorsque mon âme commence à être agitée. Et bien aimé, les événements autour de nous nous exposent aux inquiétudes. Tout ce qui arrive autour de nous nous expose à l'agitation. Déjà là, on s'est dit, demain les enfants vont aller à l'école. Faut-il que je laisse mes enfants sortir? Faut-il que je les garde? Mon âme est dans les inquiétudes. Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, parce qu'il est là. Parce qu'il est avec toi, dis-lui, Seigneur, écoute, demain je ne sais pas, mais voilà ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a moyen que toi-même tu les prennes en charge? Et il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, que l'intelligence ne peut pas expliquer, la paix de Dieu, que l'intelligence ne peut pas définir, va faire quoi? Va garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. J'ai prié ce matin que les cœurs de quelqu'un, que les pensées de quelqu'un soient gardées dans la paix de l'Éternel. La paix de l'Éternel. Et lorsque je parle de cette paix, je ne parle pas de la paix que le monde nous donne. Je ne parle pas de la paix que les chartes ont à définir. Je ne parle pas de la paix que les dictionnaires définissent. Je parle de la paix que Jésus-Christ a donnée en disant, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous le donne, afin que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Afin que votre cœur ne se trouble point. Beaucoup d'inquiétudes. Agitation. La présence de Dieu nous aide à garder notre cœur. Et lorsque nous gardons notre cœur, voilà les choses que nous évitons. Nous évitons premièrement les soucis du siècle présent. Parce que Dieu est là. 1 Pierre 5, 7, il dit ceci. Et chargez-vous sur lui de vos soucis. Oh, quelle grâce d'avoir Dieu. Quand j'ai les soucis, je le charge. Et Dieu, c'est un conteneur qui ne se remplit jamais. Il y aura toujours des pieds vide à l'intérieur. Chaque fois que ça arrive, je sais que je peux encore faire entrer là-bas. Jésus, en enseignant dans Matthieu chapitre 13, verset 22, il dit ceci: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle présent et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quelqu'un qui est soucieux, même si vous lui parlez de la parole de Dieu de n'importe quelle manière, cette parole ne produira jamais. Parce que les soucis, c'est comme des épines. Même lorsqu'il a une table garnie, il dira toujours, il y a les légumes qui manquent. Lorsqu'on amènera les légumes, il dira toujours les mêmes légumes. Et le jour où il n'y aura pas ces légumes, mon Dieu, on va tomber malade dans cette maison. C'est comment on mange ici? Pourquoi? Parce que la parole n'arrive pas à produire. Dans nos foyers, à des moments, j'ai dit souvent aux enseignements prénuptiaux quand je suis avec les couples. C'est charmant là, c'est charmant. C'est charmant qu'on cherche. Non, tu n'es pas charmant. C'est qui en fait? C'est qui c'est charmant? C'est lui que vous avez vu sur Novelas? Laisse-moi vous informer. Sur Novelas, c'est charmant avait échoué. Cet homme a dit coupez, coupez, coupez. Reprenons, 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 reprenons. Action! Et puis il a repris encore. Il a repris encore et il a repris encore pour donner l'image de ce que tu as vu là. Alors tu vas imposer le fils d'autrui qui ne peut pas faire couper. Ce sont des soucis du siècle présent. Et même la fille d'autrui, merci maman Esther. Je ne vais pas de combat ici avec maman Esther. Même la fille hein, d'autrui. Vous lui surchargez des choses inutiles. Tout ça, c'est quoi? Les soucis du siècle présent. Je vais ressembler à, je vais avoir ça, je vais aller ici, je veux. Je vais donner, je vais poser une autre question. Même lorsque nous parlons de la richesse, alors, c'est quoi la richesse du succès selon toi? Parce que celui qui a des milliards, il veut avoir 10 milliards. Et il envie celui qui a 10 milliards. Celui qui veut avoir 10 milliards, il envie celui qui a 20 milliards. Et celui qui a 20 milliards, il envie celui qui a 200 milliards. Alors qui envie qui et qui n'envie personne? Et nous allons même vers la personne les plus riches jusqu'à présent. Parce que la Bible, lorsque la Bible compare Salomon, il compare à l'habillement de fleurs. Il dit, écoutez, même les fleurs ne s'habillent pas comme Salomon. Il a conclu sa vie comment? Vanité des vanités. Comme pour dire, ce que j'ai cherché là, je ne l'ai même pas trouvé. Je ne l'ai même pas eu. Les soucis du siècle présent. Luc chapitre 12, verset 27, il dit, guidez-vous. Ok, supposons que Jésus ouvre la porte en disant que tout le monde puisse être soucieux. Il dit, alors qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée de sa durée de vie. Une coudée, c'est une demi-mètre. C'est un demi-mètre. Donc, il faut avoir deux coudées pour avoir un mètre. C'est Jésus est en train de dire ceci. Par tes soucis, est-ce que tu es déjà arrivé à ajouter juste ça? Qui? Alléluia. Garde ton âme. Garde ton âme parce que elle doit être en bonne santé pour t'aider à vivre dans cette marche chrétienne. Tu te bats pour iPhone 14. Il y aura iPhone 15 demain même. Tu te battras pour iPhone 15. Ça sera bientôt là. Et vous vous rappelez qu'à un certain moment, il y avait des Nokia 3310. Vous vous rappelez? Nokia 3310 est là. Celui qui avait Nokia 3310, mais attends. Ici récemment, j'ai entendu une maman parler que le téléphone avec touche, elle appelle sa calculatrice. Et ce n'est plus un téléphone. Inutile. Lorsqu'on garde notre cœur, notre âme, nous gardons, nous évitons les éléments, la peur. Deuxième élément qui fait à ce que notre marche chrétienne connaît des agitations, la peur. La peur du lendemain, qu'est-ce qui va arriver demain? La peur de tout perdre. Oh, je risque de tout perdre. La peur d'être mal compris. Oh, si j'ai dit ça, les gens vont mal me comprendre. La peur d'échouer. Nous ne voulons pas échouer. Qu'est-ce que les gens diront s'ils entendent que j'ai échoué? Il y a aussi la peur de la mort. Les gens arrivent à se compromettre pour éviter la mort. Mais laisse-moi te dire une chose, tu vas te compromettre jusqu'à arriver à 100 ans ou 100 ans, parce que là ma femme allait me dire, chérie, tu as dit quoi là? 100 ans, pas 100 ans, ok? C'est grave, hein? Surtout d'avoir une femme qui est très intelligente et les enfants intelligents, mon Dieu. Je vous ai raconté l'histoire comment une fois j'ai prêché, c'était tellement bien, les gens étaient contents. À la sortie, oh Seigneur, pasteur, on a été bénis. Juste quand j'entre dans la voiture, ma deuxième fille me dit, papa, toi, tu ne changes toujours pas. On te parle de ton français là, c'est pas normal. Elle là. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que je fais encore? On dit, on te dit toujours, on ne dit pas la guerre, on dit la guerre. Oh là là. Et là, avec toute la joie d'onction au volant, c'est fini. J'ai dit, ok, prochainement, il faut bien me regarder. Si j'ai encore la gueule, tu me regardes pour que je corrige le plus vite. Alléluia. Dans Matthieu 14, 30, Jésus dit ceci. Et il dit à Pierre, c'était l'histoire de Pierre. Et il dit à Pierre, sors de la barque et marche sur l'eau. Pour aller vers Jésus. Et plutôt, il dit à Pierre, viens. Et puis Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, Pierre avait peur de s'enfoncer. Mais parce qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Parce que plus tu as peur, plus tu attires les problèmes qui te font peur. Plus tu as peur, plus les problèmes viennent vers toi. Donc la meilleure manière de ne pas avoir ce qui te fait peur, c'est de ne pas avoir peur. Alléluia. Troisième chose qu'il faut aussi, que toujours, lorsque Dieu nous aide à garder notre âme, nous arrivons à éviter, c'est l'apostasie. Vous connaissez l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Dans Apocalypse, on est en train de nous parler dans l'église d'Éphèse et aussi l'église de Pergame. On nous parle d'un monsieur qu'on appelait, d'une doctrine qu'on appelait les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, selon les pères de l'Église, Irénée et Clément d'Alexandrie, et ils disent ceci, c'est que les Nicolaïtes, probablement c'était une secte qui a été créée par le frère Nicolas. Le frère Nicolas, c'était parmi les frères qu'on a eu à choisir, parmi les prosélytes qu'on a eu à choisir dans les Actes des Apôtres chapitre 6. Vous vous rappelez lorsque les disciples avaient dit, cherchez-nous les hommes sages, ayant un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, afin qu'on leur donne la charge de distribuer. Nicolas était aussi parmi eux. Mais il est fort probable que ce frère, à un certain moment, il a fait faillite de sa foi, entre guillemets. Il est tombé dans l'apostasie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré en arrière et il a formé son secte, et ce secte est devenu parmi les sectes dangereux de cette époque-là. Et Jésus dit dans la marche chrétienne, Luc chapitre 9, verset 62, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, cette personne n'est plus propre au royaume des cieux. C'est-à-dire, sa vie doit s'arrêter à partir de ces jours-là. Sa marche chrétienne. Et lorsque je m'engage dans la vie chrétienne, c'est un chemin à sens unique. Si j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne l'ivrognerie, j'abandonne l'adultère, j'abandonne, c'est-à-dire je prends un chemin à sens unique. Pourquoi? Parce que je deviens un wanted de l'ennemi. Les diables me cherchent, parce que c'est comme quelqu'un qui avait son troupeau, mais parmi, il y a une brebis toujours agitée qui veut partir. Qu'est-ce qu'on commence? Lorsqu'on planifie déjà la prochaine brebis à tuer, donc je suis sûr que la liste sur la liste, cette brebis-là qui nous fait mal à la tête, alléluia. Et l'ennemi, lorsque on était dans son camp, et puis on a décidé à ce moment de commencer à quitter, il nous a perdu dans la circulation, et puis il nous voit encore bonnement rentrer. Il dit, cette personne est devenue dangereuse. Tenez-les bien. Amen. Hein? Marche avec nous. Et je termine par la dernière chose que la présence de Dieu fait dans nos vies, c'est que la présence de Dieu nous garde sous la gloire de Dieu. Sous la gloire de Dieu. Vous savez, bien aimé, la gloire de Dieu, telle que nous l'avons dit les années passées, c'est un poids, c'est une charge. Et lorsque Dieu vient en nous, même les objets légers, parce qu'il y a la gloire de Dieu, ces objets prennent du poids. Mais pas n'importe quel poids. Ça prend le poids de celui qui est en eux, de ceux qui habitent en eux. Mais ici, dans la convention avec Dieu, Dieu parle à Moïse d'une chose très importante qui a beaucoup frappé mes yeux ou alors mon intelligence. Il dit ceci, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Alléluia. Tu ne me verras pas, mais je vais me rassurer d'un lieu. Et c'est ce lieu-là qui va te prouver que tu es sous ma gloire. Je vais expliquer ça. Il dit, je te placerai dans un lieu, mais ce lieu, c'est tout près de moi. Voici un lieu, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dieu sait que dans la vie que nous menons ici sur terre, étant chrétiens, nous sommes dans les dangers. Du reste, lui, il a dit à ses disciples ceci, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas tué les loups, bien-aimés. C'est pour cela, à un certain moment, ne nous faisons pas de peine. Oh Seigneur, vraiment, tu vois les gens autour de moi. Oui, Dieu savait que ces gens sont là. Et il ne les tuera pas. Ces gens seront toujours là. Et ils auront un seul objectif, de te défier. Ça, Dieu sait. Ça, Dieu sait que tu es léger. Tu ne tiens pas. Mais il dit une chose, je te couvrirai par ma gloire. Je te mettrai à un lieu sûr. Il y a une histoire, et je vais terminer par là, qui me fascine dans 1 Samuel chapitre 19, 21 à 24. J'aimerais bien que les médias puissent. Médias, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça dans le logiciel pour qu'on puisse bien lire ensemble? Une histoire merveilleuse. Il s'agit de David qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Médias, projetez-moi le verset, mais pas le logiciel. Voilà. David est poursuivi par Saül. Il ne sait quoi faire. D'ailleurs, déjà ici, il se pose des questions, mais qu'est-ce que je fais à cet homme? Je lui ai fait du bien. Mais les soucis, les inquiétudes ont frappé Saül. Et Saül a commencé à poursuivre David. La Bible nous dit ceci. David est allé vers Samuel à Rama. Et Samuel a dit, non, ne restons pas ici parce que c'est dangereux. Ils sont montés à un lieu sûr, chez le fils des prophètes. Et lorsque Saül a appris que David était chez les fils des prophètes, il a envoyé premièrement une délégation pour aller dire, pourquoi est-ce que vous pouvez garder David, mon ennemi, ici? Livrez-les. Ils ne l'ont pas fait. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à prophétiser. Parce que ces lieux-là étaient remplis de l'esprit des prophètes. Il a envoyé la deuxième délégation. Cela est arrivé pour eux la même. C'est ici qu'on arrive à 21, on dit, on fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. 22, Saül décida maintenant de partir seul. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sokou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, c'est à Najot, près des Rama. 23. Et il se dirigea vers Najot, près des Rama. Lorsqu'il est arrivé près, écoutez, il dit ceci, l'Esprit de l'Éternel fit aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najot, près des Rama. 24. Il ôta ses vêtements. Et il prophétisa devant Samuel et il s'est jeté nu. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de mettre et de donner cette histoire? Parce que bien aimé dans le Seigneur, les lieux dans lesquels le Seigneur va nous placer lorsqu'il est avec nous, c'est un lieu où lui seul contrôle tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas un lieu où l'ennemi met ses pieds comme il le veut. Non. Dieu va se rassurer que tu es dans une couveuse où lui seul contrôle. Et même lorsque l'ennemi viendra, oh, il va se retrouver en train de jouer selon les règles et les rythmes de Dieu. Dieu va encore les ridiculiser parce qu'au moins les autres ont prophétisé avec leurs habits. Mais le Seigneur a demandé d'abord à Saül, de ôter tous ses habits royaux. Et je déclare ce matin pour quelqu'un, le Seigneur va le faire pour ta vie. Laisse seulement que le Seigneur puisse marcher avec toi. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Et toutes ces personnes qui étaient en train de se poser la question sur est-ce que réellement il est avec Dieu, ils verront Dieu sur ton chemin. Et lorsqu'ils feront, comme les Kinois disent, Mutumangongi, comme Saül sur le chemin de Damas, ils vont rencontrer le Dieu qui est capable de contrôler et la vision et tout ce qui est autour. Parce que Dieu est capable de frapper d'aveuglement afin que toi, tu puisses entrer dans ta promesse. Alléluia. Seigneur, marche avec nous. L'autodiscipline ne suffit pas, Père. L'autodiscipline ne suffit pas, Seigneur. J'ai encore besoin, à tout moment comme Moïse, de me rassurer. Est-ce que tu es là, Père? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je ne vais pas tomber dans les charmes de l'expertise. Je ne vais pas tomber dans l'erreur des pensées que je connais, je maîtrise, je sais. Non, Père. Marche avec moi. Tu vas juste prier et dire à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Je refuse de prendre des décisions. Je refuse de faire des choses comme si je n'avais pas Dieu. Seigneur, marche avec moi.